CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour un MAG consacré à une conférence pour ce vendredi, c'est à Nègrepelisse, proposée par l'association Les Échanges Essentiels sur le thème de l'île de Crète. Dans ce MAG, on vous suggérera aussi le détour par l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, monument national de Ginals, qui propose deux ateliers pour les enfants. Demain, c'est Land Art et mercredi prochain, ce sera Secret des bâtisseurs de Beaulieu. On vous dira tout dans ce MAG après, puisqu'on est mardi, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques avec Victor Le Guenec. Salut Victor.
Salut Lisa.
Quoi de neuf ?
Eh bien, plein de choses. On lance aujourd'hui notre concours d'écriture, concours d'écriture qui va se dérouler d'aujourd'hui, du 13 février au 20 avril, sur le thème « L'arbre et la feuille blanche », avec en gros une page à faire, un thème obligatoire et 10 mots imposés. Donc voilà, on peut retrouver toutes les informations du concours sur le Facebook de la médiathèque de Quélus ou sur le site du réseau des médiathèques du QRGA.
Il avait déjà eu lieu l'an dernier.
Tout à fait, c'est la deuxième édition et on relance ça vu le succès de l'année dernière.
Avec plein de petits cadeaux à gagner.
Tout à fait.
C'est parti ?
On y va. Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause écologie terrestre et opéra spatiale, avec tout d'abord une nouvelle BD du réseau, Vertige, 10 ans d'enquête sur la crise écologique, présentée par la Revue Dessinée. La Revue Dessinée, c'est un trimestriel d'actualité en bande dessinée qui présente des reportages et enquêtes sur différents sujets, société, politique, écologie, ainsi que des rubriques régulières telles que l'analyse d'un film, d'un album ou d'une photo culte, l'explication d'un terme de langage, la présentation d'un sport, d'une loi, des sujets variés dont par une vingtaine d'auteurs et dessinateurs qui participent à chaque numéro avec autant de styles différents. Ici, Vertige, c'est une compilation sur un sujet spécifique, car si certains se demandaient il y a un an qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires, la Revue Dessinée, elle, n'a eu de cesse de proposer dans chacun de ses 40 numéros de riches enquêtes sur les crises climatiques et écologiques qui secouent le monde. Et rassemble ici, dans un seul et même album, les plus emblématiques. Des algues vertes au chlordécone, de l'effondrement de la biodiversité au greenwashing, 10 ans d'enquête et une formidable collaboration entre journalistes et dessinateurs. Une BD édifiante qui nous vulgarise efficacement les dérives de la prise en compte tardive du réchauffement climatique. Ça aborde l'ensemble de ces enjeux d'une actualité brûlante pour mieux les comprendre, les appréhender et les expliquer. À lire au plus vite. Mais après ces 10 années de présent, je vous propose un grand pas dans le futur et dans l'univers vaste, voire infini de la SF. Genre littéraire fabuleux, tout plein de son genre. Robots, extraterrestres, voyages temporels, découvertes spatiales, cyberpunk, uchronie, mais aussi le space opéra. Genre ambitieux et souvent casse-gueule, reposant sur des dimensions galactiques, des luttes politiques épiques, des guerres titanesques, des enjeux à l'échelle d'une humanité étalée sur des distances cyclopéennes. Chez les grands maîtres du genre, on retrouve Asimov, qui nous a offert le cycle de robots et celui de fondation. Dan Simon, qui nous propose les Cantos d'Hyperion. Il y a le cycle d'Ender et les Guerriers du Silence, autant de représentants de haute volée du space opéra. Et puis, il y a Dune, le space opéra absolu. La deuxième partie de l'adaptation par Denis Villeneuve sortant bientôt au cinéma, il m'a paru indispensable de faire un point sur ce chef-d'œuvre incontournable du space opéra, de la SF et de la littérature en général. 1000 mondes, 1000 factions, 1000 batailles, 1000 complots se concentrant sur quelques personnages clés, catalyseurs d'une histoire galactique où l'ensemble des intrigues, même celles jugées mineures, ont tout un impact capable d'influencer la destinée de l'humanité. Dune, c'est le cycle d'une vie, celle de Frank Herbert, un cycle qui mêle religion, géopolitique, philosophie, prophétie et luttes intestines, avec, en point d'orgue, une réflexion incroyablement poussée sur l'écologie à l'échelle d'une galaxie, et plus encore, sur la survie d'une humanité dispersée dans les étoiles en tant qu'espèce. Rien que ça. Le scénario est très prenant. Le premier tome, le plus connu et le plus emblématique, présente les factions, suggère des enjeux diffus pour l'ensemble du cycle, en enrobant le tout dans une intrigue de lutte de pouvoir entre les Atreides et les Harkonnen pour le contrôle de la planète Dune, la planète produisant l'épice, drogue de préscience nécessaire au voyage spatial, denrée indispensable à la survie des organisations économiques et politiques de l'Empire. Dune n'est cependant qu'une superbe introduction à l'architecture d'une histoire bien plus vaste, dépassant les destinées des personnages d'origine pour s'étaler sur des siècles et nous offrir une introspection sur la race humaine remarquablement aboutie. l'écriture froide, dure et directe de Franck Herbert reste néanmoins exigeante. On est plongé dès les premières pages dans un univers qu'on ne nous explique pas, le rendant curieusement beaucoup plus réaliste. Avec un vocabulaire parfois obscur, mais vite, très vite, on se retrouve happé par la force du récit et des personnages. Au destin à la fois dramatique dans leurs échecs et tragique dans leurs réussites, c'est complexe et subtil, tourmenté mais lucide. Et si j'ai parfois la verve vertigineuse et le verbe hyperbolique, je peux cependant vous assurer d'une chose, c'est une œuvre incontournable, à relire ou lire les pieds sur terre. Sur ce, je vous laisse. Dune de Franck Herbert et Vertige de la revue dessinée sont à retrouver dans votre réseau des médiathèques favoris. Bonne lecture et à bientôt.
Merci Victor. Toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont aussi à retrouver en podcast sur le site de cfmradio.fr.
Come home, the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our Rosalie to roam with the Buffalo.
Remember, you're a
BFM Kélus. Le mag.
Ce mag est à propos d'une conférence autour de la Crète à travers l'histoire et son patrimoine. C'est une conférence au programme de vendredi qui vient à 18h30 à Nègrepelisse. Une conférence organisée par l'association Les Échanges Essentiels qui invite William Donarel. Bonjour William.
Bonjour Lise.
Vous êtes ancien réceptif, Crète, spécialiste de la Grèce. Alors pour commencer, réceptif peut-être, définition.
Être réceptif, c'est la personne qui est en charge de l'accueil des touristes d'un tour opérateur, d'une agence de voyage sur une destination.
Moi, si on me dit la Crète à travers l'histoire et son patrimoine, tout de suite, je visualise cette île verdoyante entourée de bleu avec ses maisons blanches, sa flore, sa faune. Et puis aussi, en passant, il y a de nombreux épisodes de la mythologie grecque qui font partie, sont passés en Crète. Je pense au Minotaure qui garde son labyrinthe. Zeus y est né d'ailleurs. Et puis Dédale et Icare ont essayé de s'en échapper en se construisant des ailes. Là, si on parle d'histoire, je remonte à très très loin quand même.
Alors déjà, je vais faire juste une première rectification, mais c'est une erreur qui est assez commune à ce niveau-là. Les petites maisons blanches à volets bleus, ce n'est pas l'île de Crète. C'est très clairement les Cyclades. C'est un peu, comme je le dis toujours, par comparaison. Donc, si un Grec vient en France, toutes les maisons de France ressemblent aux maisons basques ou aux maisons alsaciennes. Voilà. Donc, la Crète, c'est vraiment une île à part. C'est une architecture qui est à part. Au niveau des maisons aussi, même si quelques maisons peuvent être blanches, c'est quand même totalement différent de ce qu'on rencontre sous les îles des Cyclades. Maintenant, il est vrai que l'île de Crète, d'un point de vue historique, patrimoine, etc., c'est la première civilisation d'Europe, effectivement, et c'est aussi la naissance de plusieurs plus grands mythes et plus grandes légendes qui démarrent de l'île de Crète, notamment le Minotaure, mais c'est aussi le lieu de naissance de Zeus, par exemple, qui a été élevé dans une grotte de Crète pour échapper à son père et à la prémonition qui en avait été faite qu'un jour, un des fils de Cronos le tuerait. Voilà, et Zeus a été élevé en Crète dans son enfance, quand il était bébé, pour échapper à son père. Donc c'est vrai que beaucoup de mythologies, beaucoup de légendes démarrent de l'île de Crète. La plus connue, vous l'avez dit, étant celle de Icare, du Minotaure, et cette légende très fameuse.
L'île de Crète, on l'a dit grecque, mais en fait elle a été rattachée à la Grèce seulement en 1913.
Oui, effectivement, c'est une des dernières îles qui a été rattachée à la Grèce. C'était un long parcours semé d'embûches et malheureusement de beaucoup de sang, parce que l'île aurait dû être rattachée à la Grèce déjà aux alentours de 1898. Ça ne s'est pas fait, c'est devenu un état autonome, mais à partir de 1913, très officiellement, oui, la Crète a été rattachée à la Grèce. Pour information, la dernière île grecque à avoir été rattachée au pays, c'est l'île de Rhodes en 1947.
La Crète à travers l'histoire et son patrimoine pour cette conférence. Alors, on a parlé très très rapidement histoire, patrimoine, à part qu'il n'y a pas les maisons blanches au volet bleu. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Sur le patrimoine ou autre, l'île d'abord, c'est une île qui est assez déroutante parce que c'est vrai qu'on a la vision très commune des îles, comme vous venez de le dire, avec les maisons blanches et les volets bleus. Et j'ai coutume de dire que la Crète, c'est un petit continent à elle seule, parce qu'on a de la plaine, on a de la montagne, on a de la mer, on a de la plage, on a des lagunes, on a des grottes. Je veux dire, c'est vraiment une île avec plusieurs visages qui sont déroutants parfois et qui sont tout autant fascinants d'un autre côté.
Je visualise des oliviers partout, moi.
Il y a des oliviers partout en Crète aussi, bien sûr. C'est le grenier de la Grèce pour beaucoup de choses.
La Crète connue aussi pour ses problèmes environnementaux.
Oui, mais curieusement, l'île ne connaît pas, par exemple, de sécheresse. Je vais faire une image, mais il faut concevoir la Crète comme un énorme morceau de gruyère. Et en fait, comme il y a des altitudes très importantes, puisque les massifs montagneux peuvent monter largement à 2600 mètres d'altitude, avec l'histoire des neiges et des pluies, etc., tout le sous-sol, en fait, est très bien irrigué. Donc, ce qui fait qu'on ne connaît pas nécessairement de problème d'eau là-bas. Maintenant, ça reste une île, ça reste un bien qu'il faut protéger, qu'il faut utiliser avec modération, mais on n'a pas de rupture d'eau en Crète de manière générale. Par contre, oui, par rapport à la végétation, à la température, etc., il peut y avoir de sérieux incendies de forêt sur cette île, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de problème d'eau particulier.
Vous allez nous faire le tour de l'île à travers des photos personnelles, peut-être ? Comment ça va se passer, la conférence ?
Voilà, il y a des photos personnelles, il y a des cartes que j'ai pu récupérer à gauche, à droite, notamment des cartes d'époque, pour expliquer comment la Crète s'est montée. comment on en est arrivé à cette île-là. Mais c'est vrai que j'ai ramené beaucoup de photos de là-bas. Donc, ce sont des photos que j'ai pu réaliser, qui seront montrées pour tout ce qui sera des visages de l'île. Ça, c'est clair.
Et qu'est-ce qui vous a marqué, choqué plus particulièrement sur la Crète, hein, cette île? Pourquoi elle spécifiquement? Pourquoi vous en êtes amené à donner des conférences en venant à Négropolis?
D'abord parce que j'y ai passé près de 10 ans, là-bas, sur cette île-là en tout cas, plus de 10 ans, et que c'est une île qui m'a toujours fasciné par son caractère résolument authentique. C'est une île où les gens sont fiers d'être crétois, ils sont fiers d'être grecs, attention, il faut le préciser, il n'y a pas de mouvement autonomiste ou indépendantiste en Crète, les crétois sont grecs, et ils sont fiers de l'être, mais ils sont également fiers de leur identité. Et c'est un, j'ai trouvé que c'était une île qui, avec ses visages, comme je l'ai dit tout à l'heure, était extrêmement passionnante, fascinante, déroutante parfois, parce qu'il y a, si je vous montre une photo de la baie de Gramvoussa, vous allez me dire que c'est aux Seychelles, et je vous dirai non, c'est à l'ouest de l'île de Crète. Et il y a plusieurs lagunes comme ça qui sont absolument magnifiques. Donc on a des visages d'une île qui sont très différents d'un endroit où on peut se trouver, et tout en ayant pourtant l'identité grecque qui est partout.
Allez, un petit bain de soleil sur quatre postales ce vendredi à 18h30 à l'auditorium du château de Négropolis pour cette conférence autour de la Crète, à travers la Crète, décidément, à travers l'histoire et son patrimoine, animé par vous-même, William Donarel, et organisé par l'association Les Échanges Essentiels. Je rappelle que vous êtes ancien réceptif crète et spécialiste de la Grèce. C'est vous qui allez nous proposer cette visite guidée, entrée libre et au chapeau pour cette conférence. Un grand merci, William.
Merci à vous et à très bientôt. It's quiet now, and what it brings is everything comes calling back. A brilliant night, I'm still awake. I looked up.
BFM Caylus, le mag.
Et dans la dernière partie de ce mag, on fait le détour par l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, monument national de Ginals, qui propose des ateliers pour ses vacances. Le prochain, c'est demain, et c'est Colline Féa qui va nous le présenter. Bonjour Colline.
Bonjour.
Vous êtes agente du patrimoine pour donc les monuments nationaux. On va parler secret des bâtisseurs de Beaulieu. On va aussi parler Land Art de Poche. C'est demain.
Oui, tout à fait. Demain, à 14h30, nous proposons un petit atelier Land Art de Poche pour les enfants. Donc, ils pourront s'inspirer du travail de l'artiste Ida Karskaya, qui est exposée dans la collection de Beaulieu et qui travaille avec des éléments naturels, branches, écorces, feuilles, d'où ce terme de Land Art.
C'est pour les enfants seulement ?
Oui, seulement pour les enfants. Les adultes sont invités à visiter le monument pendant ce temps-là.
Ouais, on va en parler du monument aussi. Hein. En tout cas, le 21, il y a un autre atelier mercredi prochain.
Pour le mercredi prochain, on propose une autre thématique, les secrets des bâtisseurs de l'abbaye de Beaulieu. Donc là, les enfants sont plutôt invités à découvrir l'histoire et l'architecture médiévale de l'abbaye. Et ils pourront manipuler des éléments d'architecture pour construire des voûtes, donc à la manière des bâtisseurs de cathédrales.
Il faut réserver pour venir, c'est payant, comment on fait ?
Alors oui, le mieux c'est de réserver sur notre site internet, en ligne. Les ateliers sont payants, c'est à 6€ pour les enfants. Et puis pour les adultes accompagnants, c'est le tarif habituel de 9€.
Et alors pendant que les enfants feront du Land Art de Poche ou apprendront les secrets des bâtisseurs de Beaulieu, les adultes sont amenés à faire le détour par les jardins, par les collections permanentes, temporaires, et puis par le bâtiment lui-même.
Oui, tout à fait. Les adultes pourront découvrir la collection de Beaulieu, visiter le monument, l'exposition temporaire du moment aussi, Passage de Thierry Pécastin, un artiste contemporain qui fait de l'art abstrait. Donc il y a plein de choses à découvrir en attendant.
Et tout au long de l'année, la prochaine expo, on a une idée de ce que c'est ?
Alors oui, la prochaine exposition, elle débutera le 30 mars. Elle s'intitule « Fred II sous l'œil de ses collectionneurs ». Fred II, c'est l'un des artistes de la collection qui ont fait en 2024 le centenaire de sa naissance. Donc on lui rend hommage avec une belle exposition donc à partir du 30 mars.
En tout cas, c'est toujours le moment de visiter l'abbaye en elle-même et ses jardins. Je reviens dessus bientôt les jonquilles, là, les personnages.
Oui, tout à fait.
Elle date de quand ?
L'abbaye a été fondée au milieu du XIIe siècle. Les plus anciens bâtiments datent plutôt du XIIIe pour le cellier et la salle capitulaire notamment.
Et elle a été remise à neuf par un couple de collectionneurs d'art moderne, je crois.
Oui, c'est ça. Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache, c'était un couple de collectionneurs et de passionnés qui ont racheté l'abbaye en 1960 et ils y ont consacré 10 ans pour la restaurer et puis en faire un centre d'art contemporain et avant de la léguer au Centre des Monuments Nationaux, donc qui gère aujourd'hui le lieu.
Et qui bénéficie maintenant de la collection léguée par le couple Brache. Donc le détour par l'abbaye de Beaulieu, c'est demain. Pour un atelier pour les enfants Land Art de Poche, sinon le 21 ce sera Secret des bâtisseurs de Beaulieu. Tous les renseignements sont sur ce site des monuments nationaux. Un grand merci Colline Féa.
Merci à vous.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera rediffusé à 18h ainsi qu'à 21h et à réécouter en podcast bien sûr sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Là c'est les infos.